Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans les salles de cinéma de ce mercredi, une émouvante comédie sociale, Les Invisibles des femmes SDF, qui tiennent l'affiche aux côtés de Corinne Massiero et Audrey Lamy. C'est un coup de cœur signé Stéphane Boutsock. Au sommaire du journal musical avec Steven Bellery, le retour de Lana Del Rey, un inédit de Mika et Rock Legends, une tournée qui fait revivre des groupes mythiques le temps d'un concert. Les express du jour, de Laissez-vous tenter seront livrés par Aymeric Partono et Bernard Lehu nous révélera les 5 finalistes du Grand Prix RTL Lire 2019. Enfin, à la télévision ce soir, la fin de la deuxième saison de la série à succès On va s'aimer un peu beaucoup, et sur C8, Renaud, toujours debout, un document inédit consacré aux chanteurs. Ce sont les choix d'Isabelle Morin-Midosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Nous allons dans un instant passer en revue les films qui sortent ce 9 janvier. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
On souhaite bon courage à ces 13 courageux, car côté box-office, ça n'a pas été folichon pour les nouveautés cette semaine.
Aucune n'a réussi à se glisser dans les 5 premiers du classement hebdomadaire, d'après les chiffres de nos amis du site cbo.fr. Première Vacances est le film, on va dire, qui s'en tire le moins mal, autour de 180 000 entrées. Pour le reste, eh ben, prime aux valeurs sûres. Ah oui. Bohemian Rhapsody et Les Animaux Fantastiques 2 ont passé les 4 millions d'entrées. Astérix, le secret de la potion magique, est au-dessus des 3,5 millions, donc largement au-dessus du premier volet. Beau succès. Aquaman a franchi la vague des 2,6 millions. Et puis alors, sans faire de bruit, et je suis ravi, Une Affaire de Famille, magnifique palme d'or du japonais Kore-eda, est au-delà des 570 000 spectateurs.
Place donc aux nouveautés, Stéphane, avec pour commencer un gros coup de cœur pour le film Les Invisibles de Louis-Julien Petit.
Oui, ça avait été un des beaux moments du Festival du film francophone d'Angoulême l'été dernier. Gros coup de cœur, en effet, pour cette nouvelle comédie sociale signée par le réalisateur de Discount. Après le gaspillage alimentaire, eh bien, il a choisi de traiter de la précarité des femmes SDF. Nous sommes dans un centre d'accueil menacé de fermeture. Les responsables vont tout faire pour caser les pensionnaires avant qu'il ne soit trop tard. Je dis tout faire, ça veut dire mensonges administratifs, faux CV, petits et grands arrangements. Les Invisibles est un film où l'on rit beaucoup, mais où on découvre aussi le quotidien des travailleuses sociales et celui de celles qui passent par ces centres. Louis-Julien Petit a le talent, la sensibilité pour traiter ces sujets sur le fil, comme peuvent le faire Stephen Frears ou Ken Loach en Grande-Bretagne. Le réalisateur a passé un an en immersion.
C'est l'histoire de femmes qui quand même apprennent à, grâce au travail social, à relever la tête, à reprendre confiance en soi. Et c'est ce qu'on voit dans le film, réparer des objets pour se réparer. Et c'est en ça qu'on a trouvé la lumière. Parce que ce qui m'intéressait, c'est de poser ma caméra pendant cette urgence, de me dire, tiens, il y a des personnages qu'on va suivre dans une tranche de vie qui vont se battre envers et contre tous, qui vont appliquer une désobéissance civile, qui vont transgresser. C'est là où la comédie s'invite, dans la transgression, puisqu'évidemment Audrey Lamy et Corinne Massiero, plus on leur, plus elles décident de transgresser, elles deviennent du coup des pieds nickelés. Et nos personnages de la rue, celles qui ont réellement connu ça, ont envie de garder leur vérité et dire la vérité.
Alors, Louis-Julien Petit évoquait ses actrices. Il y a une idée géniale dans le film. C'est mêler des non-professionnels qui viennent vraiment de la rue à des comédiennes confirmées comme Corinne Massiero et Audrey Lamy. Confidence sur un tournage forcément particulier.
On a rencontré ces femmes-là, on a discuté avec elles, on s'est informé, on s'est documenté. Enfin, Coco, elle était déjà sur ce sujet-là depuis très longtemps, mais moi qui connaissais pas du tout et qui a appris ça auprès de, aux côtés de Louis-Julien, humainement, c'est hallucinant. Souvent, on parle de ça, on dit c'est un tournage extraordinaire, on s'est éclaté, c'était super. Mais là, c'était vraiment un tournage particulier parce qu'on a pleuré, on a été ému, on a pleuré de rire, on a pleuré de rage, on a pleuré de tristesse aussi par moments parce qu'il y avait des parcours de vie qui étaient hyper durs, quoi, et on se met à la place de ces femmes.
Été une pub pour Kleenex, quoi. Il y a un effet miroir qui se fait. Et donc les souffrances des unes faisaient écho chez chacun. Parce que quand tu regardes quelqu'un comme ça qui se retrouve dans la merde dehors, il y a tout le temps, c'est pas forcément pour des raisons économiques. Donc ça peut faire appel aussi à des souvenirs pas très rigolos pour les uns et pour les autres, que tu sois un mec, une nana, un bourge ou un prolo. Tu vois.
Corinne Massiero, Audrey Lamy, Sarah Succo, Noémie Lvovsky et toutes les actrices débutantes du film Les Invisibles de Louis-Julien Petit. Ne ratez pas ça, ça sort aujourd'hui au cinéma.
On rappelle aussi la sortie de deux autres noms.
Oui, coup de cœur aussi pour Edmond d'Alexis Michalik, adapté de sa pièce de théâtre qui raconte comment Edmond Rostand a créé Cyrano de Bergerac, film RTL malin, passionnant, drôle et spectaculaire. Si vous êtes plutôt adepte des sensations fortes, sorti également de Creed 2, suite de la saga Rocky, dans laquelle Sylvester Stallone entraîne Adonis Creed, le fils de son défunt ami Apollo, pour affronter Victor Drago, lui-même fils d'Ivan. vieil adversaire venu de l'Est. C'est percutant et assez émouvant, ma foi.
À l'affiche aussi, Stéphane, l'heure de la sortie de Sébastien Marnier.
Alors là, on a un thriller qui est à la limite du fantastique, dans lequel Laurent Lafitte incarne un prof remplaçant de collège qui va tomber sur une classe dans laquelle un groupe d'élèves surdoués semble avoir créé une sorte de communauté mystérieuse et se comporte comme de véritables petits tyrans. Ont-ils poussé leur prof précédent au suicide? Pourquoi semble-t-il obsédé par le dérèglement climatique? En tout cas, assez vite, si vous voulez, on sent qu'il y a un truc qui cloche.
Vous allez ouvrir vos livres à la page 77, s'il vous plaît.
Excusez-moi.
Oui.
Si jamais M. Capadis ne sort pas du coma, comment est-ce que ça va se passer pour nous?
C'est-à-dire, est-ce que vous comptez rester jusqu'à la fin de l'année? Oui, c'est ce qui est prévu initialement. Pourquoi?
En fait, nous avons pris un peu d'avance dans le programme.
Et comme on a le brevet dans quelques semaines, on ne voudrait pas perdre de temps.
Oui, je sais, mais vous inquiétez pas. L'administration m'a communiqué vos notes.
Est-ce que vous pensez être à la hauteur?
Bon, alors visiblement, il y a un problème. Vous m'expliquez?
Monsieur, s'il vous plaît, ne perdons pas plus de temps. Commençons le cours, si vous le voulez bien.
D'accord, Apolline. Je vais quand même répondre à ta question. Alors oui, je suis peut-être un simple professeur suppléant, mais je sais très bien où vous en êtes. T'as pas à t'inquiéter pour ça.
Bon, autant vous dire que ça va se gâter. Oui. L'heure de la sortie à découvrir au cinéma cette semaine. Tout comme, allez, un film argento-espagnol fascinant et troublant. Ça s'appelle L'Ange de Luis Ortega. Mm-hmm. Vous connaissiez Bonnie and Clyde. Eh bien, voici une sorte de Clyde and Clyde. L'épopée meurtrière d'un jeune cambrioleur à la beauté du diable, attiré par un autre voyou. Le duo va franchir toutes les étapes du crime jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À voir, mais aussi à écouter, parce qu'il y a une bande originale très années 70, comme cette reprise d'un tube popularisé chez nous par Johnny, créé par le groupe The Animals. Le pénitencier, donc, version espagnole, à écouter et à voir dans L'Ange.
Merci beaucoup, Stéphane Boutsock. Jingle qui nous annonce les audiences avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosse et la télévision.
Eh bien, SWAT sur TF1, vous savez, avec l'expressif chaman amour, a été regardé par 5 300 000 téléspectateurs.
Pourquoi et vous pouvez s'endormir tranquillement juste en le fixant dans les yeux.
Hier, mais c'est un score honnête, c'est 900 000 de plus qu'Un mensonge oublié sur la 3, qui rassemble 19% du public, et en troisième position, Patron Incognito sur M6, qui est dans sa moyenne, donc pas mal. Et W9 est en tête de la TNT avec Speed, 910 000 téléspectateurs. Speed.
Dans un instant, la musique et le journal musical de Steven Bellery avec plein de surprises. Vous allez voir.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Et à 9h11, toute l'actualité musicale à présent avec Steven Bellery. Bonjour Steven.
Bonjour à tous.
On démarre avec la nouveauté du jour. Elle est signée Lana Del Rey.
L'américaine révélée en 2012 avec le tube Video Games publiera au printemps son 5e album. Elle est très productive, Lana Del Rey. Elle garde le rythme d'un disque tous les 2 ans et elle était désormais exilée sur la côte ouest américaine. Elle trace son sillon dans une pop éthérée, vaporeuse. On découvre ce matin un premier extrait, un piano-voix au titre interminable. Je me lance. Allez. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. C'est le vrai titre.
Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have.
C'est le nouveau Lana Del Rey, on peut le dire comme ça, ça va plus vite. Sortie de l'album prévu au printemps.
On poursuit avec le retour de Mika. Le chanteur vient de dévoiler un titre inédit, Steven.
Près de 4 ans après No Place in Heaven, Mika prépare doucement son 5e album studio. Il faut dire qu'il est très occupé avec The Voice en France ou son émission en Italie. C'est d'ailleurs nos amis transalpins qui ont pu découvrir ce nouveau morceau lundi soir à la télé. La chanson s'appelle Sound of an Orchestra et c'est un titre écrit et composé spécialement pour une série télé, La Compagnia del Signo. Mika livre un titre électropop sans surprise mais efficace.
You lower your hand, clarinet will play. Raise it back up and it flies away. When you smile, violins will soar.
When you move your legs, timpani will roar. I can hear it, I can hear it, I can hear it. I swear, all the music you're provoking, filling up the air. It's getting loud. This is the sound of an orchestra. I can hear it playing everywhere that you are. There is a sound for everything you do.
On appelle avoir un style Sound of an Orchestra, le tout nouveau Mika, disponible en téléchargement et en streaming.
Ça, ça fait du bien. On va terminer ce journal musical par le succès des Tribute Band, ces groupes qui font revivre en fait sur scène d'anciens groupes, Steven.
Bah, c'est une véritable mode, hein, ces Tribute Band, littéralement groupe hommage. Ils sont nés en Angleterre dans les années 90. Il y en aurait près de 20 000 dans le monde, des plus amateurs aux plus pros. Une grosse tournée démarre en France et l'Olympia à Paris accueillera demain et vendredi une soirée intitulée Rock Legends. Trois groupes vont se succéder pendant plus de 3 heures. The Doors Live, Let's Zepp et Gary Mullen and the Works pour une séance appelée One Night of Queen. Vous avez deviné de qui il rejoue les plus grands tubes. C'est le producteur Richard Walter qui est à l'origine de ce triple concert. Il décrypte pour RTL ce phénomène des tribute bands.
Tu as quelques artistes qui sont des artistes phénoménaux et qui un jour ont fait de la musique et sont tombés amoureux d'un artiste ou d'une musique et ont décidé que dans leur vie, plutôt que de faire leur propre chanson, plutôt que de continuer d'une carrière de musicien, ce qu'ils veulent interpréter, c'est ce personnage-là. Et ces gens-là sont habités. Et donc j'ai commencé à chercher et à voir qui sont les meilleurs au monde. Et il y a donc un classement aux États-Unis tous les ans. Et donc j'ai la chance de travailler avec les cinq meilleurs qui sont One Night of Queen et Gary Mullen pour Queen, Led Zepp et Billy Cole pour Led Zeppelin et Doors Alive pour les Doors. Il faut savoir que les membres originaux les ont validés. Et c'est au-delà d'une imitation. Ils ont tellement accaparé et ont tellement vécu le répertoire de ces artistes-là que quelque part quand ils montent sur scène, le public oublie complètement. C'est presque un hologramme, mais vivant, de l'artiste d'origine. C'est ni une comédie musicale, ni un hommage, parce que c'est pareil. C'est vraiment le concert tel qu'il était à l'époque, avec les mêmes tenues de scène, le même matériel, le même jeu. C'est un voyage dans le temps et tu peux faire revivre à toi, à tes parents, à tes enfants, à tes amis, ce qu'était un concert de Queen en 1985, ce qu'était un concert de Led Zepp en 1977. Et c'est ça le truc incroyable.
Let's Zepp qui reprend How Lot of Love, tribute band de Led Zeppelin. Vous pourrez les applaudir demain et vendredi soir à l'Olympia, samedi à Nantes, dimanche au Zénith de Caen, mardi 15 à Brest ou encore le 25 janvier à Saint-Étienne. 17 dates à venir partout en France.
Journal musical signé Steven Bellery. Dans un instant, on... Ah bon, je pensais qu'on allait faire un peu de littérature.
Non. Eh ben.
Après la pub, après la pub. Bon, alors Bernard Lehu est prêt à partir dans le starting block. Là. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
On connaît depuis hier les 5 romans finalistes du Grand Prix RTL Lire qui sera attribué en mars prochain. Enfin, vous connaissez, mais vous allez nous l'apprendre maintenant.
Alors, 5 romans, mais 6 auteurs. Et oui, l'un de ces livres est en effet écrit par un couple, Capucine et Simon Johannin. C'est une première dans l'histoire du prix. Oui. Nino, dans la nuit, leur livre raconte l'itinéraire chaotique d'un jeune homme un peu perdu. La parité homme-femme est parfaitement respectée par ailleurs dans cette sélection, puisqu'il figure Véronique Ovaldé, romancière confirmée, qui publiera début février « Personne n'a peur des gens qui sourient », portrait d'une mère de famille très hitchcockienne. Et Vanessa Bomberger, elle, est qualifiée pour son deuxième roman, Alto Braco. Le retour d'une Parisienne sur la terre de ses aïeux, l'Aubrac.
Si je vous ai bien suivi, les deux derniers finalistes sont par définition des garçons.
Vous avez tout bon, Yves. Oui. Deux auteurs de premier roman. David Zuckerman, tout d'abord. Dans Sans Perdido, il nous plonge dans une ville imaginaire d'Amérique du Sud, du haut en bas de l'échelle sociale. Enfin, on retrouve Joseph Pontus, dont je vous ai parlé hier, qui raconte dans À la ligne son quotidien d'ouvrier intérimaire dans l'agroalimentaire. Et puis vous vous souvenez, sa maman, fidèle auditrice de RTL, eh bien, elle nous a bien écouté hier, ainsi que son fils. Et on m'a dit qu'elle avait été très, très émue.
Alors, que va-t-il se passer à partir de maintenant pour ces 5 finalistes?
Eh bien, elles vont être lues par les 100 lecteurs, membres du jury, répartis dans les 20 librairies partenaires du Grand Prix RTL Lire. Puis ces 100 jurés éliront le lauréat, dont le nom sera révélé ici même le 14 mars, jour de l'inauguration du Salon du Livre de Paris. Ouais. Et rappelons que l'an dernier, le prix avait été attribué à Isabelle Carré, la comédienne, pour son premier roman, Les Rêveurs.
Le Grand Prix RTL Lire est un vrai prix littéraire et ça me fait très plaisir que nous ayons donc cette nouvelle sélection.
Les Express LVT.
Voici nos Express du jour donc, préparés par Émeric Partonneau de la rédaction d'RTL.fr. Bonjour Émeric.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Il était attendu et le succès est au rendez-vous pour Sérotonine.
Oui, en 48 heures, le nouveau roman de Michel Houellebecq s'est vendu à 90 000 exemplaires selon l'Institut GFK.
Oui, c'est pas mal.
Meilleur démarrage pour l'auteur. Sorti vendredi, Sérotonine a été tiré, on le rappelle, à 320 000 exemplaires. Donc il en reste encore un petit peu en stock.
C'est plutôt bien de ne pas donner d'interview.
Oui, absolument.
Ça marche, oui. Quel art du marketing.
Absolument. Tanguy, le fils très légèrement du cinéma français est de retour.
Oui, alors on prend les mêmes, on recommence. Éric Berger alias Tanguy, André Dussolier, père insupporté, et Sabine Azéma et ses brûlures d'estomac de mère au bord de la crise de nerfs vont offrir une suite à leur petite famille née en 2001 au cinéma. Tanguy a 44 ans, il est père, sa femme l'a quitté et il décide de retourner donc chez papa-maman qui sont ravis.
Je t'aime maman.
Moi aussi mon chéri.
Et je t'aime papa.
Moi aussi mon poulet.
Promis ?
Promis.
C'est super angoissant.
Ça les égrare l'estomac.
C'est vrai que c'est angoissant.
Tanguy 2, oui. C'est le 10 avril au cinéma.
La poupée Barbie, on change d'univers, va elle aussi arriver sur grand écran.
Oui, alors on l'a vu en dessin animé, mais là ça sera en chair et en os. C'est la très talentueuse Margot Robbie, vue dans Moi, Tonya ou encore dans Le Loup de Wall Street, très blonde déjà, qui va incarner Barbie, une poupée qui d'ailleurs fête ses 60 ans cette année. Oui. Joyeux anniversaire.
Une personnalité toute particulière va s'inviter au spectacle Freak Show de Jean-Paul Gaultier.
Oui, c'est Dita Von Teese qui sera intégrée au tableau du spectacle du couturier aux Folies Bergères à Paris durant 7 représentation. Dita Von Teese, c'est la certitude d'ajouter une bonne dose de charme à Freak Show. Son allure de pin-up échappée des années 50, sa taille de guêpe façonnée par des corsets et son style très burlesque seront à retrouver sur scène du 22 au 27 janvier prochain.
Plusieurs artistes vont donc entrer en compétition pour représenter la France à l'Eurovision et l'un d'eux se détache déjà.
Oui, il s'appelle Bilal Hassani, il a 19 ans. L'Eurovision, c'est très important dans sa jeune carrière puisqu'il s'est présenté au grand public dans l'émission The Voice Kids en reprenant Rise Like a Phoenix de l'inimitable Conchita Wurst. Voilà, c'était la gagnante il y a quelques années pour l'Autriche. Alors, Bilal, il a des cheveux pastels et longs, il se maquille, ne cache pas son homosexualité, ce qui lui vaut le statut d'icône et celui de cible sur les réseaux sociaux où il est très actif. Pour Destination Eurovision, il se présente avec le très efficace Roi. Laisse-moi m'envoler. Voilà, mise en ligne au début du mois, cette chanson compte plusieurs millions de vues cumulées et écrase la concurrence. Chimène Badi ou encore Emmanuel Moir sont à la peine, avec moins de 50 000 vues à côté pour leurs chansons qui sont les concurrents directs. Donc voilà, c'est très bien parti pour Bilal.
Et cette chanson est coécrite par Madame Monsieur qui avait représenté la France à l'Eurovision l'an dernier.
Exactement.
Le succès qu'on sait.
Merci beaucoup Émeric, c'était les Express de Laissez-vous tenter. On va parler télévision donc. Chose promise, chose due. Vous commencez par un hommage Isabelle Morini-Bosque.
Oui, à New York, unité spéciale. Bientôt 20 ans d'âge, seul rescapé des nombreux polars new-yorkais de Dick Wolf. Ce soir, une étudiante SDF est retrouvée grièvement blessée. Et depuis 20 ans, chaque épisode commence inaltérablement comme ça.
Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité Spéciale pour les Victimes. Voici leurs histoires.
Là, on se met avec son sandwich devant la télé.
J'adore la musique de Mike Post. Toutes les séries de Dick Wolf commencent et terminent comme ça. Alors, j'aime particulièrement l'actrice principale, Mariska Hargitay, fille de l'actrice Jane Mansfield. Elle est présente depuis le pilote. Oui, absolument. Elle était dans la voiture le jour de l'accident où sa mère a été tuée. Hein. Elle est présente depuis le pilote de cette œuvre, accueillant aussi des vedettes prestigieuses, comme Sharon Stone en 2010. Et tiens, justement, dans l'épisode 24 cette saison-là, à quelle autre star Sharon Stone donne-t-elle la réplique? Vous ne savez pas.
Non.
Eh bien, Isabelle Huppert. Voilà, c'est tout.
Ah, bah, Excusez-moi, ça le laisse enchaîner.
Bah, oui, je suis stupéfait. Alors, cette fiction est face sur la 2 à une autre série bien française, celle-là.
Oui, ça s'appelle Je t'aime un peu beaucoup. C'est la saison 2. J'adore cette fiction judiciaire racontant le quotidien d'un cabinet d'avocats dirigé par trois femmes portant forcément très bien la robe. Il y a la patronne Astrid, Catherine Marchal, sa fille Audrey et la belle Sophia. Toutes trois font leur possible pour ajuster boulot et dodo. Les quatre traités sont possibles et plausibles. Comme ce soir, la démarche en paternité visant un homme qui sait ne pas pouvoir être le père et qui pourtant l'est.
C'est du délire, je vous dis. Je ne peux pas être le père de ces gamins.
Cet enfant a un nom, monsieur Lorca. Il s'appelle Mathieu.
Oui, mais ce que mon client veut dire...
Je sais parfaitement ce que veut dire votre client, maître Lorenzi. Il reconnaît pourtant avoir eu un rapport sexuel avec elle il y a 5 ans et demi, non?
Oui, c'était un one-shot. Juste un coup d'une nuit.
Merci, j'avais compris.
Moi, j'avais craqué sur elle.
Lui, c'est Wisin Galliana, le bel ibérique de Clem et Danse avec les stars. Alors, si vous voulez en savoir plus, car effectivement, il est le père, sans être le père, et ben 21h, la 2, vous ne serez pas déçus.
Ben là, vous nous avez un petit peu perturbé. Alors, à ceux qui préfèrent la télévision utile, vous conseillez Maison à vendre sur M6.
Oui. Comme l'émission existe depuis 12 ans, on en dit du bien en oubliant de la regarder. Or, elle est très touchante ce soir avec un quinca surendetté, Marcel, contraint de vendre son appartement, et la veuve pétulante Suzette, obligée de quitter sa trop grande maison.
Waouh, bonjour Stéphane, rentre.
Quel beau look. Dis donc, Suzette. C'est Suzette, hein?
Oui, tout à fait, comme la crêpe.
Ah, moi, je pensais à Denis Briand. J'ai perdu la tête.
J'ai vu Suzette.
T'es magnifique. Très moderne, hein? On va pas dire ton âge.
75.
Tu les fais pas. Non, mais c'est vrai.
Alors, contrairement à Suzette, la maison a mal vieilli, vous verrez. Et je conclue sur la spéciale que C8 consacre au chanteur Renaud, sa vie, son œuvre. Il n'a pas participé, mais il a autorisé, voire conseillé à ses proches, eux, d'être présents. Il savait qu'il serait pourtant question de ses problèmes d'alcool. Avec ainsi Didier Varro, Éric Jean-Jean, son ex Roman, Raphaël Mesrahi, son assistant et Dave.
On est tous égaux devant l'attraction pour les démons. Après, on les gère plus ou moins bien. Et Renaud les gère pas très bien.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va encore plus bas quand il retombe.
Il est pas immortel, et j'espère qu'il le sait bien. J'arrête pas de lui dire. Et à chaque fois, il me dit « Ouais, ok, bon, allez, salut !» Ça l'énerve quand je parle de ça, mais je dis « Je t'en supplie, fais attention à toi. »
Bien sûr, je lui ai dit « Arrête de boire !» Et tous les gens qu'il aime lui ont dit ça. Puis Renaud, quoi. Je peux même pas tout vous raconter, tellement on a fait des trucs pour qu'il aille bien. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien, on est impuissant.
La vie de Renaud, elle est faite de haut, de bas, il y a des jours où il est mieux que d'autres. C'est ça depuis 25 ans.
Renaud est un peu reclus sur lui-même, quoi. Il s'exprime pas beaucoup, parce qu'il a souvent la tête baissée. Et il doit dire aussi, j'espère qu'il m'en voudrait pas, quand à côté, il y a une table avec trois jolies filles, il y a un petit truc dans le regard qui me fait bien plaisir.
À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi. Regardez la vie.
Voilà, c'est très bien produit, c'est passionnant. Seul m'agace le son omniprésent du violon en bruit de fond, je vous l'ai épargné.
Ça, c'est une habitude. Merci beaucoup Isabelle Morini-Bos. Dans un instant, on se sépare gentiment et on accueille Julien Courbet. Demain, au programme, les 90 ans de Tintin avec Riyad Satouf, grand admirateur d'Hergé. On passera un excellent moment. Merci à toute l'équipe et bonjour à Julien Courbet.
Bonjour, bah, ça tombe bien parce qu'en parlant de Riyad Satouf, ce matin, j'étais avec une fille sublime, puisque moi, je ne fais pas ça le soir, je le fais le matin. Donc, je lui donne rendez-vous dans un hôtel, tout se passe bien, elle se déshabille, elle se glisse dans les draps. Et au moment où j'allais commencer ce qu'elle attendait de moi, je lui dis, on va mettre une petite ambiance quand même pour que ça soit sympa. J'allume la radio, pensant tomber sur de la musique et là, je tombe sur vous.
Ou que vous avez des remontées acides, ce qu'on appelle plus scientifiquement les reflux gastro-œsophagiens qui vous brûlent un peu derrière la poitrine. Mais dans les bulles, il y a du gaz. Et à un moment donné, il faut bien s'en débarrasser.
Et bizarrement, elle est partie. Donc je voulais vous dire, monsieur Calvi, est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour que quand j'ai des rendez-vous galants, vous puissiez parler de choses peut-être un petit peu plus romantiques?
Bah oui, mais prévenez-moi si vous voulez. Si vous me tenez au courant de votre agenda. Bon. Et en fonction de ça, on choisit la tenue, bien entendu, des chroniques de Michel Simès.
Rappelez-nous votre invité demain.
Tintin.
Non, dites la vérité. Qui est votre invité demain? On a envie de savoir.
Mais à quelle heure?
Mais l'invité, vous l'avez dit, demain, je recevrai dans Laissez-vous tenter.
Satouf.
Riyad Satouf, qui fête avec nous les 15 jours d'assurance. Ça va, bravo. Voilà. Ça vous fait. Oui, en barre, je suis comme lui, moi aussi, ça me fait rire.
Bon, d'ailleurs, est-ce que vous savez comment on dit le chiffre 69 en langue arabe?
Oh là là, allez-y.
Tintouf, metouf. Non, vous savez pas. Bon, allez. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
Et bonne année à tous.